Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, nous reviendrons sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et puis dès 13h30, rendez-vous avec l'un de nos grands intellectuels. Sa voix vous est familière, chers auditeurs. Il est écrivain, génial lecteur, professeur au Collège de France où ses cours sont pris d'assaut. L'héritage de Philip Roth. Et si l'écrivain américain était le dernier des modernes, quelle relation entre esthétique, littérature et politique aussi? Rendez-vous dans quelques minutes avec Antoine Compagnon.
France Inter. Question politique, Ali Badou.
Le duel, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Ça va, vous étiez pour Liverpool hier soir, mais vous n'avez pas l'air trop déprimé, ça va?
Bah, le but de Gareth Bale est absolument extraordinaire, donc j'avoue que même moi je me suis levé.
Mais même vous?
Ouais, mais oui, parce que moi j'adore Liverpool, j'adore l'histoire de ce club, j'adore... l'histoire, ouais, je pensais que c'était possible de faire comme contre Milan il n'y a pas si longtemps où ils avaient remonté.
Et le patriotisme et Zinedine Zidane.
Mais je suis hyper heureux pour Zinedine Zidane. Donc moi, de toute façon, c'était un match sans enjeu. C'est-à-dire que j'allais être content, quel que soit le vainqueur. J'étais très lâche dans mon approche de ce match.
Mais c'est une très belle attitude malgré tout. On va pas débattre de football, mais on va démarrer avec la mobilisation d'hier un peu partout en France et de nombreux commentaires sur la marée humaine qui était promise au président de la République. Marée basse, titré TF1 sur son journal hier. Coefficient de marée faible, disait Édouard Philippe dans le journal du dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression du président de la République, Natacha?
Écoutez, déjà, une première chose qu'on peut peut-être noter sur ce comptage, en effet, la marée était-elle basse, la marée était-elle en reflux, il faut avouer qu'Emmanuel Macron a de la chance. Il en a beaucoup.
De la chance, mais,
oui. Pour une raison, c'est que son arrivée à l'Élysée correspond avec une nouvelle méthode de comptage des manifestations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des médias indépendants qui comptent. Avant, quand il y avait un mouvement social, on prenait le chiffre de la préfecture de police, on prenait le chiffre des organisateurs et on se disait, bon, grosso modo, c'est entre les deux. Là, le comptage des médias est souvent très très proche de celui de la préfecture de police. Donc on peut considérer que c'est le vrai chiffre. Mais du coup, mécaniquement, le mouvement social a l'air moins fort qu'il ne l'était avant cette méthode de comptage. C'est quand même tout bénéfice pour Emmanuel Macron qui a l'air d'affronter un mouvement social totalement affadi, alors que malgré tout, il y a une colère sociale dans le pays.
Raphaël?
Oui, il y a une colère sociale dans le pays, mais ce qui est inquiétant ou ce qui interpelle en tout cas, ce qui donne à réfléchir, c'est qu'en fait, il mène, Emmanuel Macron, une série de réformes extrêmement rapidement et que les colères grandissent, mais les manifestations ne grandissent pas. Et qu'il n'y a pas cette convergence des luttes qui est recherchée.
Et comment l'expliquez-vous?
Eh bien, moi je pense qu'il y a, la stratégie d'Emmanuel Macron et le fait qu'il est, en tout cas en tant que stratège, extrêmement intelligent, la multiplication des réformes et l'apparence de leur inéluctabilité démobilise. Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Démobilise.
Ouais, démobilise, c'est-à-dire que les gens se sentent impuissants et observent. La deuxième raison, c'est quand même l'idée que, eh bien, si on va manifester, on manifeste à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il y a, en France, il y a, je suis sûr, une colère qui monte. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui même parmi les électeurs de Macron au premier tour, sont choqués par certaines des réformes, mais qui ont l'impression, s'ils descendent dans la rue, qu'ils viennent apporter un blanc-seing à quelqu'un auquel ils n'adhèrent pas par ailleurs. Et donc il y a...
Même s'il y avait plusieurs organisations gauchères dans la rue, que les syndicats étaient avec les politiques pour la première fois, la CGT...
Hier, les syndicats ont rejoint, la CGT en tout cas, et d'autres. Il y avait aussi Benoît Hamon et d'autres mouvements. Mais c'est perçu comme le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, et surtout, avec tous ces syndicats et tous ces mouvements, il n'y a pas plus de monde qu'à la fête de Ruffin, à laquelle Ruffin appelait quasiment seul. Et donc, ça ne grandit pas, le nombre d'organisations ne change rien, et en fait, c'est comme si on restait toujours au même nombre.
Natacha, comment expliquez-vous aussi que c'est le fatalisme était l'explication, pour le dire rapidement, de Raphaël, votre explication?
Alors, le fatalisme de fait, et un fatalisme qui est lié au fait que la dérégulation par l'idéologie néolibérale, ça fait quand même 40 ans qu'elle s'impose petit à petit et qu'elle remporte petit à petit des luttes. Et en effet, il y a cette impression, mais qui est une impression extrêmement dangereuse, qui est en train petit à petit de s'imposer, c'est que, après tout, la démocratie n'a pas permis d'empêcher cette dérégulation. Or, si cette impression-là devait se concrétiser dans la tête des citoyens, alors nous ne savons pas du tout ce qui pourrait en sortir. Le deuxième point...
Mais ceux qui étaient dans la rue hier n'étaient pas résignés.
Alors non, ils n'étaient pas résignés, mais justement, ils n'étaient pas très nombreux, et c'est ce que tout le monde a pu observer. Et en effet, ils y sont allés avec cette ambiguïté qui consiste à savoir pourquoi ils sont descendus dans la rue, et à l'appel de qui, et avec quel espoir politique.
Oui.
Par exemple, on a vu que la CGT avait accepté, ce qui est tout de même quelque chose d'extrêmement nouveau. La CGT a accepté de défiler auprès d'un parti politique. On sait très bien le chiffre, 51% des militants de la CGT ont voté Mélenchon à la dernière présidentielle. Donc évidemment qu'il y a une convergence idéologique, même si ce n'est que 51%. Alors on ne sait pas si les autres ont voté Poutou, Nathalie Arthaud, peu importe, ou Benoît Hamon. Mais ça n'est que 51% pour Jean-Luc Mélenchon dans un mouvement où pourtant il y a des convergences idéologiques majeures.
Oui.
Ce qui prouve en effet qu'une bonne partie des gens qui aspirent à un changement social ne se reconnaissent pas dans la façon dont Jean-Luc Mélenchon traduit cela. Et en fait, le problème est là. À un moment donné, en démocratie, on a besoin d'une incarnation politique.
Raphaël.
On a besoin de quelqu'un qui va offrir quelque chose qui puisse se passer dans les urnes. C'est tout le problème.
C'est le problème. Et je pense que ça explique aussi la résistance de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, y compris...
Elle s'effrite aujourd'hui,
oui,
dans le dernier baromètre.
Elle s'effrite, mais il reste beaucoup plus haut que ses prédécesseurs. Et elle s'effrite à une vitesse lente, en particulier chez les électeurs sociodémocrates, alors qu'il mène une politique... et il mène des réformes et il a un style politique d'exercice du pouvoir qui devrait les choquer. Mais ce qui explique cela, c'est en grande partie, en effet, le fait que les gens regardent le spectre politique et disent « Oui, mais quoi d'autre ?» Quoi d'autre que Macron ?
Et c'est une impression... Autrement dit, entre Macron et Mélenchon, il n'y a rien.
Mais justement, en fait, entre Macron et Mélenchon, il y a des millions de Français... Mais il n'y a aucune expression politique qui fonctionne. Il y a des millions de gens qui se sentent orphelins, qui sont pour une critique des réformes libérales, pour une critique de l'exercice autoritaire du pouvoir, mais qui ne voient rien émerger qui puisse leur donner une confiance ou leur donner l'impression d'un choix différent.
Alors il y a aussi les optimistes, et plutôt que de voir le verre à moitié vide, ceux qui l'ont vu à moitié plein, et au-delà des questions de chiffres, Benoît Hamon par exemple, qui était dans le cortège à Paris hier avec son mouvement Génération, disait que c'était enfin le moment où l'on voyait les gauches françaises réunies. Est-ce que vous partagez son diagnostic, Natacha ?
Alors, je pense que, justement, l'idée qu'il n'y aurait que à gauche, qu'il y aurait un refus du néolibéralisme imposé par Emmanuel Macron, est une erreur de perspective qui facilite la tâche à Emmanuel Macron. Parce que je pense que de l'autre côté du spectre politique, c'est-à-dire chez des gens qui peuvent se reconnaître dans la droite ou même dans l'extrême droite, ou en tout cas qui sont allés voter parfois Front National, et d'ailleurs peut-être même y a-t-il des militants CGT qui ont voté Front National, on en connaît quelques-uns. Donc parmi tous ces gens-là, il y a un refus, en tout cas de ce modèle économique. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en Italie. Tout ça, les deux bouts du spectre peuvent se rejoindre. Sauf que, politiquement, en France, ça ne marche pas. Et qu'on voit, en effet, ce rêve, notamment à travers la phrase de Benoît Hamon, de reconstituer une force de gauche contre Emmanuel Macron. Je pense, pour ma part, que c'est une erreur. Je pense qu'il faut faire l'alliance de tous ceux qui refusent ce système économique et qu'ils se retrouvent sur une base minimale, parce que sinon, justement, ce néolibéralisme peut avancer,
Raphaël,
en fracturant tous ceux qui ne se reconnaissent pas en lui.
On a la raison, en fait, de notre désaccord de fond. C'est-à-dire que moi, je pense au contraire que cela ne fonctionne pas, précisément parce que pour les gens, c'est perçu comme une...
En Italie, ça a marché.
Non, mais cela ne fonctionne pas en France, parce que c'est perçu comme une critique souverainiste d'Emmanuel Macron. Et qu'il y a une voix qui ne se fait absolument pas du tout entendre dans ce concert, c'est la voix d'une social-démocratie, des écologistes, qui semblent complètement dépassés par ce débat entre Emmanuel Macron qui dit « Si vous voulez préserver le cadre de la démocratie libérale et de l'Union européenne, alors je suis votre seul secours, je suis votre seul recours. Et face à moi, il y aura une alliance des souverainistes que prône Natacha Polony. »
Moi, je pense que c'est... on peut être souverainiste et écologiste.
Bien sûr, on peut tout à fait, mais simplement... Il y a la nécessité d'une critique d'Emmanuel Macron, d'une proposition alternative au sein même des forces qui sont pour la construction européenne et qui sont pour la construction d'une démocratie européenne. Et c'est là où en fait il y a une sorte de cataclysme, c'est-à-dire une ruine totale des partis qui auraient pu incarner ça, les Verts, le PS, et que Génération n'arrive pas à incarner.
Mais Raphaël, on peut aussi, en un mot, être pour une Europe, mais une Europe indépendante, et croire que c'est par la souveraineté des peuples qu'on va arriver à cette Europe
qui
existe politiquement.
Si vous voulez une Europe indépendante, il faut une Europe souveraine, il faut qu'elle ait des instruments politiques, il faut qu'il y ait une démocratie politique européenne, et ça, c'est les souverainistes qui bloquent de toute façon chaque avancée vers ça.
Non, non, c'est pas les souverainistes.
Et avancer, passer au prochain dossier, le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Autre dossier important, cette semaine, le président de la République était à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine. Il était en direct sur BFM TV hier, vendredi soir.
Aussi vrai que je place la relation avec Donald Trump dans l'histoire d'alliance entre la France et les États-Unis au service de la liberté, aussi vrai je place la relation entre la France et la Russie dans son cadre historique. C'est ce que j'ai fait en l'accueillant à Versailles et en venant ici à Saint-Pétersbourg. C'est de dire nos deux pays, nos peuples, se sont toujours parlé, se sont aimés. Et ils se sont aimés par la culture, par l'intelligence. Ces histoires sont plus fortes que nous. Et ce que je veux dire par là, c'est que je place, moi, la relation avec Vladimir Poutine dans cette vision stratégique qui est que la Russie doit être arrimée à l'Europe. La Russie est européenne.
Commentaire, Raphaël Glucksmann.
Non, c'est très bien d'évoquer l'histoire longue, l'histoire qui façonne les relations entre les peuples, mais il y a aussi l'histoire récente qui est importante. Et moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois qu'on change de président de la République, que ce soit en France d'ailleurs ou n'importe où ailleurs en Occident, eh bien, on a le phénomène de la mémoire du poisson rouge, c'est-à-dire qu'on nous parle de la grande histoire de l'amitié entre les peuples, mais on ne se souvient pas qu'il y a une histoire qui a 20 ans, par exemple, et qui est celle de Vladimir Poutine au pouvoir. Or, ce qui était marquant dans la conférence de presse entre les deux, et ensuite, d'ailleurs, dans l'interview entre Macron, que Macron a donné à la télévision française, c'est qu'il y a au même moment une enquête internationale qui explique dans le détail que l'armée russe, parce que ça ne pouvait être que l'armée russe, et c'est prouvé, a descendu un avion de ligne avec 300 victimes, près de 300 victimes, dont une immense partie de citoyens européens hollandais. Et la Hollande fait partie avec nous d'un ensemble de solidarité qui est appelé à toujours plus se creuser et se construire. Et tout d'un coup, on passe ça mais par-dessus bord sans aucun problème. C'est-à-dire que Poutine fait une blague en disant « Mais de quel avion vous me parlez ?» Et Emmanuel Macron ne relève même pas. Et donc on est là dans l'exaltation d'un temps long, mais ça fait quand même 20 ans que cet homme a le pouvoir et 20 ans qu'il est hostile, profondément hostile aux principes et aux intérêts de l'Union européenne. Il y a la Tchétchénie, la Géorgie, l'invasion de la Géorgie, l'invasion de l'Ukraine, la Syrie, le soutien à tous les mouvements d'extrême droite en Europe. Donc à un moment, il faudra quand même se demander. Je veux bien que tout le monde veuille absolument en faire son ami, mais peut-être lui ne le veut-il pas.
Natacha.
Alors, je sais, puisqu'on a peu de temps pour répondre, simplement, il faut regarder en effet sur les 20 dernières années, le positionnement de Vladimir Poutine n'a pas toujours été le même. Et on pourrait refaire l'histoire des conflits au sein de l'Europe de l'Est, mais simplement, je pense que là, ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, c'est tout simplement de rattraper Vladimir Poutine, qui est en train petit à petit de se tourner vers la Chine. Il est en train de se tourner vers la Chine, de construire une alliance avec la Chine et de se détourner de l'Europe parce qu'il la considère comme inféodée aux États-Unis. Si on veut empêcher un conflit, si on veut ramener Vladimir Poutine vers une attitude géopolitique acceptable et qui ne s'asseye pas totalement sur le droit international et sur les droits de l'homme, il faut petit à petit, reconstruire des liens. Et c'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, notamment sur la question syrienne, en essayant de faire converger le processus d'Astana, donc instauré par la Russie, la Turquie et l'Iran, et le processus qui est au cœur du projet, notamment français. Donc il y a eu une tentative d'essayer petit à petit de ne pas reconstruire une guerre froide, ce qui est profondément dangereux pour l'équilibre du monde.
Vladimir Poutine n'est pas en réaction à une politique européenne. Vladimir Poutine a son propre agenda idéologique, ça fait 20
qui
ans.
Qui était préservé des pays tampons près de chez lui. Voilà,
Oui, bien sûr. Alors, c'est de préserver des pays tampons près de chez lui, c'est d'envahir ses voisins, c'est de les démembrer.
Il voulait juste des pays tampons. L'OTAN a petit à petit grignoté sur cet espace.
C'est pas l'OTAN qui a envahi les pays voisins de la Russie, c'est la Russie qui a envoyé ses troupes en Ukraine et en Géorgie. Et de toute façon, c'est le choix souverain des Ukrainiens. C'est aux Ukrainiens de décider ça. C'est quoi cette logique où on accepterait que Vladimir Poutine décide à la place des Ukrainiens? S'ils veulent rentrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, c'est leur problème.
Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
Ils ont fait une révolution. Raphaël. Natacha, vous pouvez me dire non, Raphaël, mais le fait est qu'une majorité écrasante des Ukrainiens
et une
majorité écrasante des Ukrainiens vote pour des partis qui sont pour l'Union européenne. On ne va pas leur demander de voter pour des partis pro-russes.
Mais surtout,
en quoi soutenir l'ensemble des extrêmes droites européennes garantit une zone tampon à Vladimir Poutine? Non, il est hostile au projet d'union supranationale qui s'appelle l'Union européenne à ses frontières parce qu'il le voit comme une menace existentielle à son régime. Et donc, à un moment, il va falloir engager, sans faire de guerre, un rapport de force, sans penser qu'il est simplement en réaction. C'est un acteur adulte, Vladimir Poutine.
Un rapport de force, ça n'est pas de revenir dans une guerre froide où nous serions totalement inféodés aux intérêts américains.
Mais quel inféodé, Donald Trump a été élu avec Vladimir Poutine.
On va devoir en rester là, les amis. C'était intéressant et on aura l'occasion de reprendre cette discussion, d'entendre le président de la République dire qu'il ne menait pas une diplomatie des états d'âme. Et c'était intéressant de savoir ce que recouvrait cette expression. Est-ce qu'il s'agissait d'une diplomatie des droits de l'homme? Est-ce que c'était le signe que sa diplomatie était une politique, une réelle politique en matière étrangère? Nous aurons l'occasion de reprendre le débat. Il est 13h34, place au débat sur France Inter.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Notre invité ce dimanche, il est écrivain, professeur au Collège de France, chaire littérature française et contemporaine. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes l'un de nos grands critiques littéraires. Vos cours au Collège de France sont pris d'assaut. Vous êtes l'auteur notamment d'un livre consacré aux antimodernes chez Gallimard et qui a fait date. Et c'est une thèse qu'on a voulu reprendre avec vous pour comprendre notre présent. Un mot d'abord à propos des hommages multiples qui ont été rendus à Philip Roth, dont on apprenait le décès cette semaine. Quelle place occupe cet écrivain américain dans la culture contemporaine ?
Il est très important. Quand on voit les articles dans le New York Times, évidemment, le New York Times est un journal de New York, donc ils sont particulièrement sensibles à cet homme, mais il occupe une place très importante dans la littérature américaine. Certains de ses romans ont été lus, moi je dirais, par tout le monde, en tout cas par tous les gens qui lisent. Et c'est la mort de Philip Roth, c'est un peu la fin d'une époque.
La fin d'une époque, laquelle ?
Celle de quelques grands romanciers américains, Malamud, Saul Bellow, qui représentaient, je dirais pour moi, la tradition du modernisme, qui était... Du modernisme, ce sont des intellectuels, ils ont tous à la fois fait des études universitaires poussées, ils ont enseigné, puisqu'il y a beaucoup de va-et-vient entre l'enseignement et la création littéraire aux États-Unis. Ils ont écrit sur la littérature, ce que les écrivains d'aujourd'hui font moins, ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup lu. Ce sont des intellectuels, ils auraient pu être des professeurs. Il y a quelque temps, j'ai eu Vargas Llosa au Collège de France. En voilà un qui est de la même génération, qui peut parler de tout avec une extraordinaire compétence. Oui, ce sont des hommes, parce que ce sont surtout des hommes, il faut avouer, dont nous n'avons plus beaucoup d'exemplaires.
Quand vous disiez que c'était un moderniste, pourtant certains le classent dans la catégorie des antimodernes, et je pense notamment à Luc Ferry qui avait parlé de Philip Roth en disant qu'il était un antimoderne parce qu'il est nostalgique, parce qu'il a en lui et dans son écriture une forme de mélancolie, parce qu'il regrette quelque chose qui est irrémédiablement perdu. Là, on coche quelques-unes des cases de l'antimoderne.
Alors moi je dis que c'est un moderne parce que sa littérature est expérimentale. Il y a une dimension de tous ses romans nouvelles, la recherche d'une forme, et chaque roman correspond à la recherche d'une forme originale et nouvelle. Et c'est ça qui définit la tradition moderniste, c'est la recherche formelle et expérimentale.
Natacha Polony.
C'est peut-être toute la difficulté de ces termes que nous employons et qui sont parfois entendus dans des acceptions totalement différentes. Moderne, anti-moderne. On pourrait ajouter la notion de progressisme, c'est-à-dire qu'il me semble que ce qui fait aussi que Philippe Ross est moderne, c'est qu'il est anti-progressiste ou qu'en tout cas, il a su, par le récit, traduire toute la méfiance qu'il a vis-à-vis de l'idéologie du progrès. Et c'est peut-être ça qui caractérise la pensée moderne au sens où vous l'entendez, il me semble.
Raphaël, ouais. Puis Antoine.
Je pense qu'il y a une volonté de classer un auteur qui précisément nous parle à tous parce qu'il est profondément inclassable. Philippe Ross, c'était à la fois une critique de l'idéologie progressiste, une critique des structures conservatrices des communautés, c'était un questionnement sur l'identité. C'est en fait, à mon avis, un auteur qui a une liberté telle qu'on ne peut pas le classer.
Non, mais sans le classer, on peut mettre des mots sur certaines...
Et on enterre là, quand même... l'Amérique qu'on aime, enfin l'Amérique qu'on aimait, c'est-à-dire cette Amérique des années 60 qui à la fois connaissait les cadres, connaissait les codes et en même temps cherchait de manière permanente à les briser et à affirmer une forme de liberté totale vis-à-vis des codes sexuels, vis-à-vis des idéologies, effectivement le progressisme, mais aussi le conservatisme. Et c'était ça qui nous parlait à tous et qui a vraiment profondément changé le lecteur que je suis.
Antoine Compagnon.
Dans ce livre sur les antimodernes, je définissais précisément les antimodernes comme ceux qui résistaient à la pensée unique du progrès. C'était donc des modernes, mais des modernes qui avaient conscience que tout progrès implique un regret.
Et ce qui fait qu'on peut y trouver, par exemple, Baudelaire.
Baudelaire ou Chateaubriand, qui pour moi étaient les prototypes. Ce sont des hommes qui sont absolument engagés dans le présent, dans l'histoire. Il n'y a pas plus engagé, c'est Baudelaire qui définit la notion de modernité. Et s'il est tellement lucide sur cette modernité, je dirais, au point de l'inventer, c'est aussi parce qu'il est capable de regarder en arrière. Vous savez que Sartre lui reprochait d'avancer en regardant dans le rétroviseur. Moi, je pense que c'est le plus bel éloge qu'on puisse faire, d'avancer en étant à tout moment lucide sur la dimension de perte. Que représente l'avancement. On perd des choses tous les jours. Tous les jours, on perd des langues.
Est-ce que c'est pas le propre de tous les écrivains, en fait? C'est-à-dire que, à partir du moment où on est en adhésion totale avec les évolutions de sa société, on n'est même pas conduit à écrire. C'est-à-dire que l'écrivain, son acte n'est nécessairement une forme de frustration face à l'existant. Sinon,
Oui, la littérature a une dimension d'opposition, de résistance au temps présent et au mouvement, au but vers lesquels nous allons.
Mais n'y a-t-il pas justement une forme de mise en abîme dans ce que nous sommes en train de dire sur Philippe Roth, à savoir que nous sommes conduits par là à regretter l'Amérique qu'il incarne? C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes obligés de constater que les temps ont changé, que ce progressisme sur lequel il exerçait un travail critique est en train de s'imposer comme une obligation qui rend impossible, j'allais dire, une vision esthétique, poétique, littéraire du monde, qui est en train d'étouffer sous un moralisme absolument épouvantable, parfois, et que peut-être la littérature est aussi une façon de lutter contre ce caractère totalement univoque qui s'impose.
Antoine Compagnon.
L'Amérique que nous regrettons, c'est une Amérique qui était européenne, qui était tournée vers l'Europe et qui était représentée notamment par quelques grands artistes, non seulement écrivains, mais peintres, qui étaient juifs et d'origine d'Europe de l'Est, qui étaient de la première génération à aller à l'université et dont les parents étaient, ou les grands-parents au plus, avaient émigré vers les États-Unis. Donc ce que nous regrettons, c'est cette Amérique européenne, cultivée, littéraire, esthétique, pour beaucoup new-yorkaises, avec des extensions à San Francisco et à Los Angeles. Mais tout ce qui est au milieu n'a pas changé, est toujours là, était là dans les années 50 et 60. J'ai connu l'Amérique du début des années 60, j'ai été dans le Midwest dans les années 60, c'est l'Amérique que l'on voit triompher aujourd'hui. Ce qui triomphe aujourd'hui, c'est l'Amérique des années 50.
C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec vous et beaucoup moins d'accord avec ce qui a été dit avant. Aujourd'hui, c'est pas du tout le triomphe du progressisme aux États-Unis, il n'y a pas de triomphe progressiste. Il y a de triomphe progressiste dans certaines facs isolées du reste de la population américaine. Mais on a Donald Trump au pouvoir, contre qui d'ailleurs Philippe Roth a eu des mots extrêmement violents. Et c'est pas, on peut pas dire que ce soit le progressisme qui domine. C'est pas le progressisme qui est en train de tuer cette démocratie américaine, ce débat américain.
Pardon, c'est bien... Raphaël, j'essaye toujours d'avoir une pensée dialectique. Et pour moi, c'est Donald Trump et ce progressisme dont je parle, qui est la vision puritaine d'une conception des rapports entre minorités, sont en fait en résonance et l'un pousse l'autre.
Oui, mais enfin, dans le paysage américain, les universités dominées, en effet, par un certain moralisme politiquement correct. Bon, je suis parti aux États-Unis il y a 35 ans, j'ai vu évoluer l'université américaine, qui n'est plus du tout la même. Mais enfin, c'est un archipel dans un immense pays que ce réseau universitaire et le reste de l'Amérique. C'est celle qui triomphe aujourd'hui. N'oublions pas que Donald Trump a eu la majorité des Blancs, et notamment chez les hommes. Ils ont voté en majorité pour lui.
Beaucoup de femmes blanches aussi.
Et dans un acte qui n'a rien de progressiste, mais qui est profondément, par contre, anti-littéraire. C'est-à-dire que Donald Trump se targue de son inculture, ouais, bien sûr. Oui. Il résume la culture à un show de Broadway, et c'est cette Amérique-là qui pose le plus de problèmes.
Alors, je suis d'accord. Natacha,
j'aimerais qu'on revienne en France.
On est d'accord, Raphaël, mais simplement, énormément d'intellectuels américains après l'élection de Trump ont justement se sont posé la question de savoir si cette vision politiquement correcte qui s'était imposée, cette lecture politique qui consistait à ne traiter que des minorités et à adapter le discours politique aux minorités n'a pas justement rendu impossible le fait de s'adresser à une nation dans son ensemble et a facilité la tâche de Trump. Il y a eu énormément de réflexions très intéressantes
là-dessus.
Je pense que c'est beaucoup plus une réaction à un président noir qui était le président.
Ah mais je ne dis pas que c'est un président noir.
C'est un backlash.
Mais bien sûr, c'est beaucoup
auquel
plus
on a
ça.
Assisté et le phénomène du politiquement correct dans les universités
qui est magnifiquement
tout de même assez
décrit dans La Tâche, qui est un roman prodigieux peut conseiller absolument à tous les auditeurs.
C'est l'un des meilleurs romans de Philippe Roth, La Tâche.
Et le politiquement correct, la question des minorités, la question du racisme et la question des relations entre communautés est vraiment fantastiquement expliquée. Même la question des relations sexuelles et du puritanisme, puisque c'est sur fond de l'affaire Clinton-Lewinsky.
Et puis la question des relations entre noirs, blancs et juifs, puisque le faux noir se fait passer pour un juif.
Mais ce qui est passionnant, alors en partant de Philippe Roth justement, c'est ce jeu entre l'esthétique et la politique. Il est déterminant pour comprendre la modernité, les anti-modernes. Si on devait revenir de ce côté-ci de l'Atlantique, derrière, je vais le dire de manière caricaturale et vous me corrigerez, derrière l'opposition entre nouveau et ancien monde, est-ce qu'on retrouve l'opposition ou le jeu entre moderne et anti-moderne, Antoine Compagnon ?
Aujourd'hui, beaucoup moins. L'opposition, quand j'insistais sur cette anti-modernité, bon, c'est déjà il y a un certain nombre d'années, la pensée du progrès était d'une certaine façon encore solide, sinon pensée unique, encore solide. Mais 15 ans après, on est dans un pays où c'est le principe de précaution qui l'a emporté contre la croyance au progrès. Quand j'avais 20 ans, dans les années 1970, on ne pensait qu'à la croissance, on n'avait jamais entendu parler du chômage, on était sur l'autoroute, les voies sur berge. Comme j'ai commencé comme ingénieur, j'ai participé à ce mouvement. Bon, et puis, je me souviens de la radiale vers Saint-Gétorix qui devait traverser tout Paris, l'autoroute qui arrivait au centre. On en était là au début des années 1970. Et bon, il y a eu, à ce moment-là, la littérature pouvait résister à la pensée unique du progrès. On pouvait être moderne avec ce tempérament anti-moderne.
Oui, et je pense que les vrais modernes... Antoine Compagnon, la Startup Nation, l'idée par exemple qu'il faut absolument investir dans les nouvelles technologies, c'est aussi une forme d'idéologie de remplacement de ce qui a été le progrès. Mais on pourrait qualifier ça d'idéologie progressiste, de pensée unique progressiste.
Voyons si ça va aboutir. Mais il y a peu de domaines où l'opinion publique aujourd'hui, je dirais sauf la médecine, il y a peu de domaines où l'opinion publique croit aujourd'hui au progrès. On mesure toujours les inconvénients plutôt que les bénéfices du progrès.
C'est extrêmement important ce que vous dites, parce que effectivement, il y a eu un moment dans l'histoire occidentale où refuser l'idéologie a priori du progrès était un acte de résistance salvateur pour la culture. Aujourd'hui, ce même acte de résistance n'a plus du tout le même sens. C'est-à-dire que celui qui aujourd'hui pose aux résistants en s'opposant au progrès ne fait qu'épouser l'opinion dominante de la pensée occidentale aujourd'hui, qui a peur des innovations et des progrès. Et donc, il y a eu un retournement comme ça. C'est la différence, à mon avis, entre ce qu'on peut appeler des anti-modernes, c'est-à-dire des gens qui s'opposent à une marche qui semble nécessaire et qui est en tout cas extrêmement dominante, et une pensée conservatrice ou réactionnaire qui, en fait, ne s'oppose à rien du tout, affirme que le passé était mieux et que tout progrès est une calamité. Et on a basculé, en fait, de l'un à l'autre.
Alors, ces anti-modernes que je respecte, hein, que j'aime pour avoir écrit sur eux, ils résistaient à l'application du dogme du progrès scientifique et technique au domaine humain, moral et esthétique. C'était ça, Chateaubriand, Baudelaire, etc. Ils ne niaient pas du tout le progrès scientifique ou technique et industriel, mais c'était ce déplacement vers d'autres domaines qui étaient, en tout cas, sinon condamnés, du moins critiqués. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans une toute autre configuration, puisque c'est plutôt dans nos pays, parce que c'est pas la même chose si on va en Corée du Sud, par exemple.
Oui.
C'est pas la même chose.
Là, il y a une vraie croyance au progrès, notamment technique.
Oui, ou en Chine. Chez nous, c'est plutôt dans l'opinion, la résistance à la vaccination, ce qu'on voit aujourd'hui, aux ondes de téléphone portable. Alors, je ne dis pas que cette inquiétude ne soit pas légitime. Il y a 30 ans, nous étions sans doute largement aveugles aux méfaits. Lorsqu'on détruisait heureusement, Paris n'a pas été complètement détruit, mais beaucoup d'autres villes l'ont été. Donc, il y avait un aveuglement, assurément. Mais nous sommes dans une toute autre configuration.
Natacha. Là encore, j'ai du mal à percevoir ça de façon binaire comme une opposition qui existerait aujourd'hui avec des réactionnaires qui seraient devenus dominants. Dans la mesure où d'abord la notion de domination est quand même assez complexe, il y a une différence entre discours dominant et discours majoritaire dans l'opinion. Ça n'est pas exactement la même chose. Et ensuite, il me semble que présenter le discours de critique du progrès comme s'étant totalement imposé oublie qu'il y a aujourd'hui une domination par un système économique qui, lui, repose totalement sur l'extension du progrès technique, du progrès technologique, de son application à l'ensemble des domaines de la vie humaine, de l'industrialisation de tous les processus, et que cela provoque évidemment des réactions de méfiance et de crainte, mais qui ne vont pas jusqu'à l'application, puisque en fait l'industrialisation des processus sert le consumérisme, et que le consumérisme est une façon de faire accepter à tous une idéologie qui est celle du progrès par la technique.
Antoine Compagnon.
Il est vrai que tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, hein, et que nous acceptons... ou sur la table. De toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement. Et en même temps, eh bien, la résistance est là contre les ondes de ces téléphones portables. J'ai pas du tout employé le mot de réactionnaire. C'est vous qui l'avez employé.
C'est Raphaël qui l'a employé.
Je pense qu'il y a, encore une fois, je pense qu'il y a une légitime inquiétude que nous n'avions pas lorsque j'avais 20 ans et que nous étions pris dans ce mouvement de la croissance à tout prix.
Polytechnicien, le scientifique à l'époque, était embarqué.
Oui, on n'avait pas de plastique dans les océans. Toutes ces problématiques-là n'étaient pas encore.
Mais donc, je suis tout à fait pour une lucidité devant les méfaits de l'industrialisme, du consumérisme. Il suffit de se promener quand on va en Afrique et qu'on voit tout le paysage rempli de sacs en plastique, un vaste déchet de sacs en plastique, on comprend que, en effet, on doit cesser d'utiliser les sacs en plastique dans les magasins dans le monde entier.
Et ça, c'est certain. D'ailleurs, Paul Kagame, qui était reçu par Emmanuel Macron cette semaine, est le président du premier pays africain à avoir interdit les sacs plastiques.
Il n'y a plus de sacs plastiques dans la rue. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Bien sûr qu'il faut être lucide vis-à-vis du progrès technique. Et bien sûr qu'il faut refuser cette extension du progrès technique en idéologie dominante. Mais ce que je questionne, moi, c'est l'idée que aujourd'hui nous vivons encore dans cette période où culturellement, pas simplement économiquement, techniquement, culturellement, nous sommes dans un culte du progrès où tout ce qui est neuf est adoré et où tout ce qui est ancien est rejeté. Nous ne sommes plus là-dedans. Même le président qui se fait élire sur la thématique du progressisme, en tout cas qui rassemble son socle du premier tour là-dessus, du Nouveau Monde, va à la basilique Saint-Denis pour se recueillir devant l'esprit des rois. Et pose c'est sur son bureau pour sa photo un iPhone et une Pléiade. C'est-à-dire qu'il mélange les deux. Ce que je veux dire, c'est que même lui est un hommage permanent à l'ancien parce qu'il a très bien compris.
Et si c'était un anti-moderne d'ailleurs, Emmanuel
c'est
Macron,
ce qui compte, c'est pas l'hommage à l'imagerie.
Là aussi, il répond pas mal à votre définition. Ce que vient de dire Raphaël, et puis quand on regarde ses goûts littéraires, il aime par exemple Colette.
Il aime Giono.
Il aime Giono.
C'est un intellectuel. C'est un intellectuel et il a été formé.
Mais les goûts qu'il avoue sont des goûts anti-modernes.
Sont des goûts dans une certaine tradition littéraire. Moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants quand j'enseignais à la Sorbonne. Qui aimait les écrivains que...
Mais pardon, désuète des fois, comme Giraudoux.
Oui,
pardon, Antoine Compagnon, mais justement, ça n'est pas anodin d'aimer Giono et Colette. C'est un type d'écriture qui, si on l'aime profondément, si on comprend c'est la vision du monde qu'elle porte, ne permet pas ensuite de prononcer des phrases comme « Entrepreneur is the new France ». Je pense qu'il y a une contradiction absolument majeure, et Giono a écrit des pages, mais d'une ironie absolument délicieuse sur la notion de progrès. C'est pour ça qu'il y a quand même contradiction. Bon, on peut aimer lire Giono, mais aimer profondément Giono, ça n'est pas exactement la même chose.
Écoutez, moi j'ai constaté ça chez beaucoup des étudiants que j'ai eu de cette génération, quand j'enseignais à la Sorbonne, qui aiment Giono et qui en même temps sont dans l'avant-garde de la technique. Mais ce que vous disiez sur la dimension culturelle ou esthétique, ce qui me paraît très frappant, c'est que, en effet, aucun écrivain ou aucun artiste ne dirait plus aujourd'hui, comme disait Nathalie Sarraute et les auteurs du nouveau roman, si on n'avance pas, on recule. C'était ça, le dogme littéraire et artistique. Il a complètement disparu. Aucun écrivain ne soutiendrait cela aujourd'hui, et je dirais aucun artiste plastique. On est donc dans un moment de très très grand éclectisme. Il y a quelques semaines, j'avais invité Christian Boltanski au Collège de France. Il aime tout le monde. Tout est valable, tout a une valeur, que ce soit Jeff Koons, enfin on sent qu'il préfère Kiefer à Jeff Koons, mais enfin, tout a sa valeur, sa légitimité sur le marché. Et ce grand, grand éclectisme, on aurait le même en littérature, et évidemment, ça nous éloigne de quelqu'un comme Philippe Roth, pour qui il y avait encore ce mouvement littéraire qui faisait qu'on pouvait plus refaire après Saul Bellow du roman comme dans les années 30.
Autrement ça, dit, il n'y a pas de Philippe Roth français.
Est-ce qu'il n'y a pas de Philippe Roth français? J'ai du mal à voir un écrivain français contemporain qui aurait la même stature, c'est-à-dire que véritablement un intellectuel qui domine de très haut le champ politique, le champ littéraire.
Et cette idée justement qu'il y a infusion de la politique à partir d'un terreau esthétique, d'un terreau littéraire, est-ce que ça c'est encore présent aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose qui a complètement disparu selon vous?
Les relations entre politique et littérature, oui, elles ont là aussi profondément changé, mais ça, je dirais depuis assez longtemps, ça remonte. Tous les écrivains, jusqu'à une date relativement récente, étaient journalistes, écrivaient dans la presse au XIXe siècle. Presse, ça voulait dire à la fois les journaux et les livres. Donc, tous, à moins d'être des rentiers comme Flaubert, ont eu une activité de presse qui nécessairement passait par des prises de position politique. Ouais. Même ceux qui étaient les plus étrangers à la politique, comme Gautier, ben on lui reprochera d'être stipendié par l'empereur et par la princesse Mathilde. Bon, aujourd'hui, on est évidemment très loin de tout cela.
Le lien est rompu.
Il me semble, oui.
Mais est-ce que le lien n'est pas rompu, justement, pardon, mais j'y reviens, par le fait que, comme vous le dites, vous connaissez beaucoup d'étudiants qui aiment cette littérature-là. On peut aimer une littérature et pour autant, ça ne change pas votre vision du monde. Or, un politique, si vraiment il doit y avoir un lien entre littérature et politique, doit tout simplement avoir sa vision du monde modifiée, bouleversée par ce qu'il a lu. Sinon, c'est très gentil de citer dans une interview de la Nouvelle Revue Française tel ou tel écrivain, ça fait très chic. Mais ça n'est pas ça, la littérature. La littérature est une parole sur le monde.
Oui, je pense que le président de la République a été formé par la lecture de Paul Ricoeur. Ça, on peut le reconnaître. On l'a assez dit. Et certainement plus que par la littérature de Colette ou de Giono. C'est un philosophe. C'est ça. Sa soupe originelle.
Et son ADN intellectuel, on pourrait dire.
Oui. Pour le reste, je ne pense pas que ça soit véritablement déterminant, en effet.
Vous parliez des étudiants, un mot encore. Vous êtes favorable à la sélection à l'université. Est-ce que vous avez une petite pensée émue pour tous les élèves qui sont devant leur écran d'ordinateur sur le logiciel Parcoursup et qui attendent avec angoisse de savoir à quoi ressemblera leur avenir immédiat?
Moi, j'étais favorable à cette réforme. Il n'y a aucun doute. Je pense que j'espère qu'elle réussira. Et bon, les résultats sont pas si mauvais. Il y en a plus de la moitié qui savent où ils iront l'an prochain. Les dates vont arriver qui détermineront le sort des autres. Mais je crois que c'était une occasion à prendre. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les universités qui ont joué le jeu s'en sortent plutôt bien.
Et ça ne vous empêche pas d'enseigner dans un lieu, le Collège de France, qui par définition est ouvert à tous, où il n'y a absolument aucun prérequis et où on peut se presser en nombre pour ce qui vous concerne, assister à des cours, à des conférences. C'est la beauté aussi de cette institution.
Mais nous adressons aussi à des lycéens de la banlieue et de la proche banlieue qu'on fait venir. Il y en avait hier au Collège de France, justement. Nous avons un certain nombre d'acteurs, comme on les appelait, d'outreach en anglais.
Outreach. Vous parlez comme Emmanuel Macron.
Excusez-moi, je ne sais pas très bien traduire ce mot de l'activité que nous devons avoir. En Suisse, on parle d'action vers la cité.
C'est mieux.
C'est mieux.
Et c'est pas mal, ce sera une très belle conclusion. Merci infiniment Antoine Compagnon. L'émission se termine. Natacha, Raphaël, je vous dis à dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier, à la réalisation Claire Destacan, à la technique cette semaine Raphaël Rousseau et Nicolas Slimani. À suivre dans une poignée de minutes, Zoé Varier et sa journée particulière.